Le 6e congrès international des travailleurs de l'automobile se tenait à Hanovre, en Allemagne, du 15 au 18 octobre 2009. Les délégations d'une vingtaine de pays se sont retrouvées afin de fédérer les militants de base autour de thématiques aussi variées que l'environnement, les migrations, les femmes, les droits politiques, la formation des jeunes, mais aussi penser des méthodes de lutte afin de ne pas payer les pots cassés de la crise. Commençons la déambulation entre les tables des délégations, toutes garnies de bouquets d'œillets rouges et fanions aux couleurs des nations représentées, et faisons connaissance avec quelques-uns des membres de la délégation française.
Je m'appelle Thierry, je travaille chez Citroën à Aulnay. C'est Peugeot, hein, c'est PCA Aulnay. Alors je suis venu comprendre l'organisation ouvrière dans l'automobile, avoir des exemples un petit peu de tout ce qui se passe dans l'automobile en Europe et à travers le monde, pour faire des comparaisons avec l'usine où je travaille et d'avoir des idées communes pour pouvoir travailler sur le plan syndical à Aulnay.
Quelle est ton expérience justement personnelle en France sur le plan syndical ou politique dans l'entreprise PSA dans laquelle tu travailles ?
J'essaie souvent d'expliquer quand il y a un débrayage comment on peut faire, je donne mon opinion comment on peut faire, et surtout ce que j'essaie de comprendre, c'est ce que cherche à faire la direction derrière quand il y a un débrayage ou qu'il y a un conflit, parce que la direction elle tire toujours aussi à son profit quelque chose, et je veux éviter ça.
Ça arrive souvent qu'il y ait des conflits avec une direction dans l'entreprise où tu travailles ?
Toujours, c'est pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours, il y a un conflit, il y a un débrayage de quelques heures, il y a une menace de licenciement, il y a une sanction. C'est tous les jours, pratiquement tous les jours. Et il y a des moments où je me demande si ce n'est pas la direction qui organise ça, parce que c'est trop souvent que ça se fait. Alors le plus souvent, c'est quelqu'un qui a oublié de visser un boulon sur un moteur. On va lui mettre une sanction. C'est quelqu'un qui est resté trop longtemps à la machine à café. C'est quelqu'un qui a laissé trop son poste vide. C'est toujours des petites choses comme ça. Moi, je suis en logistique, je suis cariste en logistique. On a moins de problèmes, nous, en logistique, parce qu'on ne travaille pas de la même manière. Mais les plus gros problèmes qui peuvent survenir dans l'usine, c'est sur les lignes de montage à la fabrication. Et c'est toujours ces ouvriers-là qui ont beaucoup de problèmes.
Ça représente quelle partie du nombre d'ouvriers ou de salariés dans l'entreprise ?
Oh bah ils sont pratiquement facilement un petit peu plus de la moitié du personnel. Alors je ne connais pas le nombre exact, mais ils sont plus de la moitié dans le personnel, oui.
Est-ce que tu as un exemple qui te revient en mémoire d'un des derniers conflits ou débrayages qu'il y a eu dans l'usine ?
Il y a deux semaines de cela, il y a une usine qui a été en grève. En fait, on n'avait pas le matériel pour continuer à fabriquer des voitures. Donc, ils ont demandé aux gens de rentrer chez eux le matin. Ils nous attendaient à la porte à 7h pour nous demander de rentrer. On pouvait accepter comme on pouvait refuser. Mais certains ne connaissaient pas encore la manipulation de la direction. Donc, ils sont rentrés chez eux. En fait, il fallait rester. Parce que maintenant, ils nous ont demandé de rattraper ça sur un samedi. Et en fait, dans les accords de 35 heures, ils ont le droit de nous faire travailler samedi et ils ne nous payent pas. Alors il y a toujours un argument, ils ont des tiroirs entiers, des listes entières d'arguments pour venir nous faire travailler samedi. Il n'y a même plus besoin de donner de justificatif maintenant.
Comment ça on vous paye pas, c'est-à-dire
non, que, c'est en fait, c'est de la récupération. On vient travailler samedi, alors c'est les samedis qui sont obligatoires, qui ne sont plus du tout considérés comme heures supplémentaires, puisque dans la loi des 35 heures, les heures supplémentaires n'existent plus. Donc, on vient travailler samedi et c'est de la récupération. Alors, soit on est payé 45% de la journée, ou alors on récupère la journée, nous la mettre sur des compteurs. Et quand on a besoin de ces jours-là, entre autres, j'en avais besoin, parce que jeudi et vendredi, je devais travailler. Bon, j'en ai eu besoin. Et voilà, on en a besoin, donc on les prend. Mais ce n'est pas toujours accepté, c'est à leur bon vouloir quand même.
Il y a certains ouvriers, quand l'entreprise leur dit bah, « écoutez, rentrez chez vous ce matin, on ne peut pas travailler », certains ouvriers ne sont pas au courant de leurs droits et rentrent.
Oui.
Est-ce que c'est un type d'ouvrier particulier ?
Oui, c'était surtout ceux qui sont en déplacement chez nous. On a beaucoup d'ouvriers de Rennes qui sont venus travailler à Aulnay, parce qu'à Rennes, ils travaillent à peu près à 20%. Donc on a beaucoup d'ouvriers qui sont venus en déplacement de Rennes à Aulnay. Et c'est surtout eux qui se sont fait avoir, parce qu'ils ne connaissaient pas, ils savaient pas, les formules de la direction. Ils ont une autre... la direction de Citroën, là-bas, à Rennes, leur fait vivre d'autres choses, d'autres expériences que nous ne connaissons pas.
Alors du coup, ça vous permet de vous rencontrer entre les camarades de Rennes et ceux d'Aulnay.
Oui.
Ça vous permet aussi d'échanger sur vos pratiques de lutte quand on vous entend en confrontation avec l'employeur.
Oui, ça nous permet de le faire. Ça nous permet de le faire quand on a un moment pour le faire aussi, parce qu'on travaille. Mais on échange des choses, on échange des idées. Pas avec tout le monde, parce que moi, je suis de la CGT. Il y a des jeunes, donc des gens de la CGT Rennes qui sont venus à Aulnay. Donc on arrive à communiquer correctement, mais on ne travaille pas toujours avec des gens de la CGT. Mon collègue avec qui je suis n'est pas de la CGT. Donc il va peut-être pas me dire tout aussi, quoi, je veux dire. Il va me cacher certaines choses. Il y a aussi une rivalité entre syndicats, surtout à Aulnay d'ailleurs, où les syndicats, en règle générale, sont des produits de la direction, sauf la CGT qui est indépendante et qui fait un travail pour la classe ouvrière.
Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui en France, selon toi, la classe ouvrière ?
Elle est naïve, elle comprend pas la force qu'elle a. Elle comprend pas la force qu'elle peut retourner une société entière. Et donc elle est intérieure, elle prend tout sur elle-même en ce moment. Ça travaille à l'intérieur de la tête, mais ça sort pas. Il n'y a pas d'agissement vraiment, on ne peut pas dire. Mais elle évoque quelque chose de puissant, de fort, et on peut retourner une société avec la classe ouvrière en France actuellement. Et là, en ce moment, elle est en train de bouillir, vu la crise qui s'avance. La crise appelle des manipulations de la direction des usines, des coups bas, donc c'est en train de bouger en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a de cela 5 ans, je n'aurais pas entendu les propos de certaines personnes qui travaillent dans cette usine, je ne les aurais pas entendues il y a 5 ans comme je les entends aujourd'hui. En fait, ceux qui étaient révolutionnaires il y a 10 ans de cela que j'ai connu, ceux-là se taisent un peu parce qu'ils sont habitués. Ce sont les autres qui sont en train de reprendre là. Et là, il y a un changement. On voit beaucoup des gens qui parlent beaucoup, qui revendiquent beaucoup et qui ne le faisaient pas il y a 10 ans de cela.
Marc travaille à Renault Guyancourt. C'est le technocentre Renault qui est près de Paris. Je suis un militant syndicaliste, parce que je suis délégué du personnel et représentant syndical du syndicat Sud. Et en même temps, je suis aussi militant du NPA. Et donc, toute initiative qui permet de centraliser la réflexion, les luttes, de prendre des contacts, d'essayer d'avoir une démarche internationaliste, ça nous intéresse, ça m'intéresse. Et donc, ayant appris que cette réunion se tenait, j'y participe avec grand intérêt.
Quelles sont tes fonctions au sein du technocentre de Renault ?
Alors moi, je fais de la veille technologique à la direction de la recherche, c'est-à-dire que je cherche des informations sur la concurrence. Voilà. pour que Renault sache ce que au niveau des innovations ce que font les autres et qu'on voie en fonction de ça ce que nous on peut faire ou pas.
C'est ce qu'on dirait être de l'espionnage en science-fiction.
Voilà, c'est de l'espionnage, mais officiel, puisque en fait, on travaille sur les dépôts de brevets, sur les articles techniques, sur les publications, sur les revues, les journaux, etc. Et l'idée, c'est de se faire une vision de la stratégie des concurrents en termes d'innovation. Au-delà du fait de travailler chez Renault, chez Peugeot, chez BMW, on est des salariés. Et qu'effectivement, on a tout intérêt à essayer de combattre le patronat qui veut nous mettre en concurrence et qui tire la plupart des acquis vers le bas en disant bah, dans tel pays, ils sont moins payés, bah, il faut qu'on aille dans ce pays-là ou alors il faut que vous aligniez vos salaires sur ce pays-là, etc. Et en fin de compte, ils tirent tout vers le bas. Et moi, je pense qu'on doit faire exactement l'inverse et prendre contact avec l'ensemble des salariés, des travailleurs des pays. Et essayer au contraire de mettre en avant ce qui est le mieux, que ce soit en termes d'organisation du travail ou en termes de salaire, de conditions de vie. Renault est un groupe, c'est une multinationale qui est regroupée avec Nissan. Les deux groupes qui n'en font plus qu'un maintenant sont à peu près implantés un peu partout dans le monde. Et alors il y a effectivement, les syndicats font partie d'un comité de groupe, Renault, Nissan, mais ce sont des directions syndicales et bien évidemment au niveau des salariés, des délégués de base, etc., il y a très peu d'informations qui circulent. Et donc là aussi, ce qui est intéressant avec le CITA, c'est la possibilité de rencontrer des travailleurs de base et pas uniquement des grands dirigeants syndicaux qui font leur rencontre entre eux, mais sur lequel on ne sait jamais ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Quoi.
Il y a un grand désenchantement vis-à-vis des syndicats français là depuis plusieurs mois.
Absolument, je pense que les premières manifestations qui ont eu lieu au mois de janvier puis après mars ont fait descendre dans la rue des millions de personnes avec la volonté effectivement de combattre et de remettre en cause la plupart des plans de suppression d'emplois et de remise en cause des retraites, etc., qui sont des attaques de plus en plus violentes, qui amènent de la misère, des régressions sociales. Et effectivement, les directions syndicales ont en grande partie, enfin moi c'est, je pense, elles ont trahi. En tout cas, ceux qui avaient des illusions sur les directions syndicales, je pense que beaucoup les ont perdues à cette initiative. Puisqu'on a bien vu que c'était délibéré, quoi. On sait bien que quand on met 2 millions de personnes dans la rue un jour, si la proposition suivante c'est de se revoir dans 2 mois, ça va pas être efficace, quoi. Et la preuve en est, c'est qu'il n'en est rien sorti. Et aujourd'hui, les dirigeants syndicaux passent plus de temps dans les bureaux avec Sarkozy qu'à être sur le terrain pour essayer de coordonner les luttes et préparer une grève générale qui serait vraiment indispensable et utile aujourd'hui.
Pour préparer une grève générale, il faudrait qu'il y ait une entente aussi entre alors, tous les ouvriers, tous les salariés, les étudiants, les chômeurs, tous les statuts, les intermittents.
Bien sûr.
Est-ce que toi, tu tends vers ça ?
Bien sûr, c'est ce qu'on essaye de construire. Alors, je suis militant politique aussi, et donc au NPA, effectivement, on est partout où il y a la possibilité de développer des luttes, et on se bat avec nos moyens pour essayer de coordonner ces luttes, pour effectivement déboucher sur un rapport de force, sur la construction d'un rapport de force, qui ne soit pas un rapport de force boîte par boîte, mais au niveau national, et effectivement avec les étudiants, avec les sans-papiers, avec toutes les catégories sociales aujourd'hui qui sont confrontées à des attaques sans précédent. Et effectivement, aujourd'hui, on ne pourra pas faire reculer le pouvoir boîte par boîte et avec des journées de manifestation tous les 2 mois, c'est clair. J'étais au rassemblement des militants de l'automobile devant la Bourse de Paris le 17 septembre. Je pense qu'effectivement, il y a des réseaux qui sont en train de se créer, pas en dehors des syndicats, mais qui ne tiennent plus compte des syndicats ou des boîtes, etc., entre les sous-traitants et les entreprises donneurs d'ordre. Et effectivement, il y a des choses qui sont en train de mûrir aujourd'hui. sur l'idée que il faut pas attendre que les directions fassent quelque chose, puisque visiblement ils veulent pas le faire, les directions syndicales, et il faut effectivement que les militants syndicaux d'entreprise se coordonnent et essayent d'organiser eux-mêmes la solidarité et l'action par eux-mêmes, quoi. On a discuté avec les camarades espagnols, on a discuté avec d'autres camarades, d'autres pays, avec les camarades allemands, etc. Ils sont confrontés, on est confrontés au même problème. C'est le problème d'une bureaucratisation des syndicats qui existe depuis longtemps, mais là qui s'est largement aggravée avec la crise. Et aujourd'hui, les directions syndicales ne représentent plus les salariés qui sont censés représenter. Ils sont pour la plupart complètement intégrés au système. Et n'ont pas intérêt, ne veulent pas remettre en cause le système parce que ils perdraient leur place, ils perdraient leurs avantages, etc. Voilà, il y a une fracture. Le problème, c'est que l'alternative, c'est-à-dire construire autre chose, c'est compliqué, c'est pas évident. Et je pense que ça passe aussi par des réunions comme le CITA à Hanovre. Au-delà des divergences, on peut arriver à faire du travail en commun avec des gens qui ont envie de lutter contre ce système.
Aus Argentinien ist leider auch ein Krankheitsfall dazwischen gekommen. Die Kollegen aus Kolumbien hatten Probleme mit dem Visum. Ich glaube, die Kollegen hatten da weniger das Problem, sondern die staatlichen Behörden hatten ein Problem.
Parmi les ateliers de travail au programme de ce 6e Congrès international des travailleurs de l'automobile, la question des migrations fut développée tout au long d'une matinée. Kim fait partie de la délégation autrichienne et nous restitue les points forts de l'atelier consacré aux migrants.
Je travaille dans l'usine de MAN. Nous fabriquons des camions et je suis soudeur. Dans cet atelier, d'abord, on a commencé à présenter le problème de migration et tout ce qui est relié à la migration. J'ai fait une petite histoire de l'immigration. Parce que dans l'histoire aussi, il y a des migrations concernées après les catastrophes écologiques, la guerre. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'est les migrations de raisons économiques. Après la Deuxième Guerre mondiale, qui a détruit la structure sociale, aussi l'infrastructure, les pays avaient besoin de main-d'œuvre pour reconstruire les villes détruites, l'industrie et de tout. Et c'est pour ça qu'on voit la massive immigration dans l'Europe provenant du tiers monde. En particulier pour la France, le Maroc, après la guerre d'Algérie. Et pour le Deutschland, pour l'Allemagne, c'est la Turquie et l'ex-Yougoslavie. Et c'est pour d'autres pays comme Hollande, England, aussi soit d'anciennes colonies ou de pays du tiers monde. En premier temps, la présence des étrangers ne se posait pas beaucoup de problèmes parce qu'on avait des main-d'œuvre. Qu'il soit un arabe ou un noir ou un turc, ça remplissait la tâche de reconstruction de besoins de système. Mais avec le commencement de crise qui s'est fait sentir dans les années 70, il y a eu aussi l'apparition de problèmes d'émigrés. Derrière, bien entendu, il y a le repoussage de certains mouvements racistes qui veulent faire gagner le terrain. Et c'est apparu aussi la xénophobie, comme on dit les Deutsches, Ausländerfeindlichkeit. Depuis ces années-là, dans les scènes sociales et politiques, le problème des étrangers pose un vrai poids. aussi bien dans le syndical que politique. Après avoir présenté ces aspects-là, on a donné la parole à des participants, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce thème-là. Ils ont soulevé aussi d'autres aspects de ce problème de migration. Par exemple, en ce qui concerne le problème de logement des étrangers, qui est traduit en sorte de ghetto, aussi la discrimination des étrangers, leur exclusion de marché de travail, et c'est le problème, les chances inégales des étrangers par rapport à la santé. Et en fin de compte, on a fait des résolutions comme résoudre ce problème, en quelle façon. Parce que les problèmes de migration ne sont pas les mêmes comme au début. Parce que les gens qui sont venus pour travailler ou pour remplir une tâche, maintenant ils se sont installés dans les pays. Il y a une sorte, à peu près dans tous les pays d'Europe, il y a une sorte de multiculturel. Société. Chacun peut voir à ses côtés un noir ou un asien, un autre. En fait, les problèmes du système concernent tout le monde. C'est aussi bien pour un Français ou un Allemand ou un Turc, quand il y a problème de chômage, ça concerne tout le monde. L'environnement aussi, le problème d'environnement concerne, le problème de femmes aussi concerne toutes les sociétés. Mais d'un côté, il faut voir que le problème des émigrés, avec tout ça, aussi certains aspects secondaires. C'est-à-dire que les étrangers ont problème de parler, de langue, de communication, isolement. Pour résoudre le problème de la société et pour organiser les étrangers pour résoudre ce problème, il faut des organisations qui prennent en compte leurs spécificités. On a remarqué ce point, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre des étrangers prendre tous les problèmes du pays à résoudre. Mais on peut compter avec eux pour résoudre le problème.
C'est mettre l'étranger dans une position active.
Et les étrangers, surtout, sont utilisés par les extrêmes droites pour diviser encore toute la classe sociale et culturelle. Et ils rendent responsables du chômage, ils rendent responsables d'insécurité. Les étrangers, en une sorte, sont devenus le bouc émissaire de plusieurs problèmes. Il est bien entendu, la criminalité, par exemple, chez les étrangers, si est forte, ce n'est pas qu'ils ont tendance à être criminels, mais qu'ils sont exclus du marché du travail, exclus de tout. Et c'est pour ça qu'ils ont tendance à commettre des délits. Des petits délits. Et j'ai remarqué, il y a by MAN, de nouveaux arrivants, que ce soit l'Arbeiter ou d'autres, parmi eux, il y avait des étrangers. Et les étrangers, notre Arbeit exige une certaine qualification. Il faut exécuter le travail comme il faut, pour ça être qualifié. Et les étrangers qui sont débutants, ils se sont aussitôt rejetés de leur poste. Mais dans le même cas, dans la même situation, si c'est inlander, autrichien, est transféré dans d'autres sections pour des emplois qui sont moins chers et demandent moins de qualifications. Ça, c'est une sorte de discrimination, yeah? Je l'ai remarqué, j'ai vu que c'est comme quelque chose de normal. par la direction. C'est-à-dire les gens venant de notre pays, s'il n'a pas les critères correspondants, s'il ne répond pas aux critères voulus, n'a pas de chance, deuxième chance. Mais les autres, les autochtones, ont toutes les chances. Une deuxième, sur le racisme et discrimination, au sujet de logement. En Autriche, les étrangers n'ont pas le droit d'acquérir les logements sociaux, les logements sociaux. Et pour les logements sociaux sont réservés exclusivement pour les gens qui possèdent la nationalité autrichienne. Mais les étrangers aussi ont besoin de logements. Nous habitons dans des petits appartements privés, loués chers. On veut aussi des logements sociaux qui sont un peu plus. C'est mieux encore. Il y a plus de chambres, il y a la salle de bain, WC et tout. Dans les autres, il n'y a pas de WC, il n'y a pas de douche. Et en plus, c'est cher. C'est une inégalité et c'est la preuve, l'exemple de discrimination des étrangers. Mais nous aussi, nous payons sur notre salaire et le fonds de bâtiment. C'est-à-dire, je ne sais pas combien de pourcents est relevé sur notre salaire pour financer le secteur bâtiment.
Oui.
Mais on ne peut pas bénéficier de ce logement-là. Je trouvais que c'est injuste et inacceptable. On a relevé aussi ce sujet. Et puis, deuxièmement, dans le secteur de santé, quand un étranger va à l'hôpital, s'il n'arrive pas à s'exprimer, il ne peut pas prendre des soins comme il faut. Et le système d'éducation, c'est pareil. Il faut continuer. Pour continuer des études, il faut bien savoir la langue locale. Sinon, les enfants sont dirigés dans d'autres orientations, que ce soit apprentissage ou d'autres. C'est comme ça qu'on voit peu de issues migrantes dans le rang de milieux académiciens comme ingénieurs, docteurs, avocats ou d'autres.
Qu'est-ce que tu attends ou qu'est-ce que tu espères de ce sixième conseil international des travailleurs de l'automobile?
Oui. Et je suis venu ici avec l'espoir de trouver des références concernant des luttes qui vont se poser dans le futur. C'est-à-dire que je voudrais bénéficier de l'expérience des ouvriers qui ont vécu cette lutte. Par exemple, la lutte qui ont mené les ouvriers belges et allemands ensemble, et aussi les Conti ou d'autres formes de lutte, parce que nous sommes pas à l'abri de rien. Aujourd'hui, on peut avoir un travail, mais le chômage ou l'exclusion nous attend. Il faut garder, il faut défendre notre travail. Il faut savoir comment les autres ont fait cette tâche-là. Alors je suis venu, j'ai écouté, j'ai bien des points qui, tout ce que j'ai entendu ici peut servir dans ma lutte, dans ma quotidienne. Être turc, allemand, français, ça ne nous apporte rien. Mais si on a confiance de soi, de sa classe, c'est très important. Pour moi, je veux dire aux Turcs, aux étrangers, de sortir de leur ghetto qui sont créés autour d'eux et à leur tête, parce que souvent on crée son ghetto aussi dans son tête, en disant ce sont des mecs français, voilà, allemands, ils créent un ghetto dans sa tête. il faut les jeter. Parce qu'on vit dans le même milieu, on a les mêmes problèmes. Si dans un lieu de travail, il y a plus de pollution, l'autre chien aussi pollué, je suis aussi pollué. Donc on a le même problème et la solution doit être la même. C'est nous qui vont trouver les solutions.
Des solutions pour un meilleur respect de l'environnement, c'est un des autres ateliers proposés au CITA. Mais aussi un défi que l'industrie automobile relève difficilement. Les directions savent aussi parfois s'en servir comme moyen de pression lors d'un conflit social. Direction donc la table de la délégation espagnole où José et Unai du syndicat CGT discutent avec François, le traducteur.
Venimos de Valladolid, es una ciudad al norte de Madrid, y somos del sindicato CGT.
Ouais, ben, ils viennent de Valladolid, c'est au nord de Madrid. Et le syndicat, ça s'appelle la CGT, mais c'est pas la CGT de France.
CGT est une organisation anarcho-syndicaliste, libertaria et internationaliste.
La CGT, c'est une organisation anarchiste, libertaire et internationaliste.
Provenimos de l'antigua CNT.
C'est un syndicat qui vient d'origine de la CNT.
Et bueno, tenemos ahora mismo implantación en prácticamente todos los sectores. De l'activité laborale en Espagne.
Oui, ils sont un peu implantés dans tous les secteurs de salariés en Espagne.
Primero creemos que ante la agresión global que están sufriendo todos los trabajadores del mundo.
Face à l'agression mondiale que tous les travailleurs subissent.
Creemos que la respuesta que tienen que dar los trabajadores tiene que ser también global.
Et ils pensent que la réponse des travailleurs doit être aussi globale.
Nos interesa establecer contacto con gente de otros países, con sindicalistas de otros países.
Ils veulent créer des relations avec les syndicalistes d'autres pays.
Para poder dar una respuesta ante esa agresión capitalista.
Pour donner une réponse à l'agression capitaliste.
Nos interesa tomar contacto con gente de otras organizaciones y para poder hablar y establecer pues futuras acciones. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos trabajadores de Renault, estamos interesados en contactar con sindicalistas de Renault en Francia para poder tener comunicación, información y poder incluso, a lo mejor en un futuro, poder hacer cosas conjuntas.
Ils viennent de Renault, et ce qu'ils veulent, c'est créer des liens avec les salariés, enfin des syndicalistes de chez Renault en France. Quoi. Donc on a créé des liens, on a pris des contacts entre nous et on va.
Creemos que los trabajadores tenemos que saltar las fronteras de cada país porque todos pertenecemos en el fondo a la misma nación, que es la nación de los trabajadores.
Oui, ils pensent qu'il faut faire le saut des frontières parce que les travailleurs de tous les pays ont les mêmes intérêts.
Durante los últimos meses hemos tenido bastante actividad de lucha en Renault.
Ces derniers mois, ils ont eu pas mal d'activités de lutte chez Renault.
Hemos realizado encierros en la fábrica.
Ils ont fait des séquestrations dans l'usine.
Hemos realizado también una jornada de huelga.
Ils ont organisé une journée de grève aussi.
Y diversas manifestaciones. Incluso también vinimos, bueno, fuimos a París en el mes de enero para hablar con la dirección de Renault en Francia y que solucionasen los problemas que teníamos en Renault España.
Ils sont venus à une manifestation en janvier à Paris et pour représenter les travailleurs de leur usine.
Una de las factorías de Renault España, la factoría de montaje Valladolid, no tenía el futuro asegurado y era posible que se produjese un cierre de la factoría.
Parce qu'ils n'avaient pas de garantie sur l'emploi, ils pensaient qu'ils risquaient de fermer. Quoi.
Hemos conseguido, mediante la presión que hemos hecho, hemos conseguido que por lo menos tomase cartas en el asunto tanto la administración española, los políticos españoles, y que Renault empezase a hablar de un futuro para Valladolid.
Ce qu'ils ont demandé, c'est des garanties, je veux dire, d'emploi et un futur.
Después de negociar un convenio colectivo en el que CGT no estábamos de acuerdo con ese convenio, Renault se ha comprometido a adjudicar un vehículo eléctrico para la factoría de Valladolid y un vehículo convencional. así como un motor de gasolina.
Donc les autres syndicats ont signé un accord avec Renault, mais la CGT n'a pas signé l'accord parce qu'ils trouvaient assez vague et pas assez, avec assez de garanties. On leur a promis un véhicule électrique futur. Le problème, c'est que Renault, il a proposé un véhicule électrique futur un peu à tous les sites qui protestaient, quoi.
Ese acuerdo que se ha conseguido lo vemos negativo, puesto que supone un retroceso en las condiciones laborales de todos los trabajadores de Renault España.
Oui, ils ont refusé parce qu'en plus, cet accord, il remet en cause un certain nombre de garanties pour les travailleurs de l'usine à Valladolid.
En materia salarial, en materia de jornada, en materia de flexibilidad.
Donc il y a un recul sur les problèmes salariaux, de flexibilité.
Y hace tres años, en el anterior convenio, Renault se comprometió a adjudicar un vehículo a Valladolid y no lo adjudicó. Por lo tanto, entendemos que nos debía ese vehículo y que no había que haber negociado el convenio.
Il y a trois ans, Renault leur avait garanti un nouveau véhicule qui serait fabriqué à Valladolid et il n'a pas tenu ses engagements, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas confiance et ils ne signent pas d'accord avec Renault.
Porque la máxima seguridad es seria, el mejor precio no es solo para ti. Este mes llévate un Scenic por solo 15.000 euros.
Qu'est-ce qui ressort de cet atelier automobile et écologie? Est-ce que les deux mots sont compatibles?
Desde CGT España pensamos que es posible, ya que ahora mismo el mercado del automóvil está saturado. Y si en los próximos años seguimos produciendo coches que contaminen de esta manera.
La CGT, ils pensent que de toute façon le marché de l'automobile il est saturé et qu'il faudra trouver de nouvelles formes de travail.
No va a ser posible que el planeta resista a todos los gases contaminantes.
Ils pensent que la planète ne pourra pas résister à tous ces gaz contaminants, polluants, quoi.
Entonces creemos que hay una alternativa que puede ser de ir reestructurando la industria del automóvil hacia un coche de energía renovable, como puede ser la energía eléctrica o energía de hidrógeno.
Lui pense qu'il y a des posibilités de créer des voitures non polluantes, c'est-à-dire électriques ou à l'hydrogène.
Y de esta manera poder asegurar los puestos de trabajo, que es lo que más estamos dudando de si se van a poder mantener esos puestos de trabajo. Energías alternativas.
Lui, ce qu'il veut surtout, c'est que je veux dire, il maintient des postes de travail, même si tu reconvertis je veux dire, l'automobile, mais il faut que ce soit avec la garantie des postes de travail actuels, quoi.
Desde España se ha hecho una propuesta en este congreso en la cual mañana se votará, me imagino, que es una propuesta a nivel internacional.
Ouais, il a été voté à ce congrès, enfin à cette réunion. Une proposition sur l'automobile.
En la cual pedimos desde todos los todos la gente que ha participado que exprese a sus gobiernos, a sus empresas una queja y no una queja, sino demandar que se haga algo a favor de la ecología del mundo.
Ouais, du coup à cette conférence, je veux dire, il y a une motion qui a été votée pour exiger que je veux dire on prenne en compte l'écologie dans l'automobile.
Veremos a ver cómo reaccionan los gobiernos, las empresas, las comunidades, expresando una queja a nivel internacional. Si es posible llegar a los medios de comunicación y convencer poco a nuestros gobiernos.
C'est une exigence envers les gouvernements et les décideurs industriels. Comme quoi, je veux dire, il faut reconvertir l'automobile, mais en gardant les emplois.
Quand on pense à l'automobile électrique, on peut penser d'une part qu'en Europe, on ne veut plus produire d'électricité à partir du charbon. Ça, c'est une volonté européenne, institutionnelle. Et on peut penser aussi à l'électricité produite par le nucléaire. Et là aussi, ça peut faire grincer des dents au niveau de groupes ou de partis ou de syndicats ou d'organisations écologistes.
En España, tenemos mucho sol. Hay estudios que se han solicitado a los servicios de desarrollo españoles, el CSIC, y esos estudios nos dicen que la producción de energía que puede crear el sol en España es 16 veces superior a lo que puede consumir una vivienda o lo que puede consumir una persona, ¿no? Entonces nos sobraría energía.
L'Espagne, c'est un pays où il y a beaucoup de soleil et avec l'énergie solaire, il y aurait de quoi produire l'électricité largement, quoi.
Pensamos que la energía nuclear es arriesgada para el ser humano, no tanto para el planeta, pero sí para el ser humano y ahí nos da un poco de más de respeto.
Bon, ils sont pas favorables à l'énergie nucléaire parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qu'on contrôle pas et qu'on maîtrise pas, quoi.
On se souviendra non sans une certaine émotion de cette matinée où un ministre français de l'économie était venu faire l'apologie sur les ondes de France Inter de l'écologique moteur hybride de Toyota. Quelle aurait été sa retenue s'il avait su les menaces et intimidations qui planent quotidiennement au-dessus des têtes des ouvriers du secteur de l'automobile aux Philippines ? Virgilio est membre du syndicat des ouvriers chez Toyota. Reden, ouvrier chez Honda, est aussi président de l'Alliance de l'industrie automobile. Quant à Dante, il est membre de CarAid, la coalition des ouvriers de l'automobile et industrie associée contre la domination impérialiste. Il témoigne.
We are fighting for the justice, for the illegally dismissed. We have 233 union members from our union that have been dismissed since 2001, and now we still fighting for this very much time, for 8 years of struggle for the justice of dismissed workers in Toyota Philippines.
Nous nous battons pour la justice et contre les licenciements illégaux. Nous sommes 233 syndicalistes qui avons été licenciés depuis 2001 et maintenant nous nous battons encore et toujours depuis 8 ans que dure cette lutte pour la justice, pour que cette justice soit rendue à l'usine Toyota des Philippines.
We are dismissed only because of a forming union in our company, and the policy of Toyota is no union policy, but we break it, so the management try to crush our union, so they dismiss all officers of the union and some 200+ union members.
Nous avons été licenciés par notre entreprise uniquement parce que nous sommes syndicalistes. La politique de Toyota est qu'il n'y ait pas de syndicat et nous avons brisé cela. Donc la direction a écrasé notre syndicat en nous licenciant.
We have a right on our constitution, a right to freedom of association, right to strike.
Nous avons le droit de grève en Philippines, le droit de réunion, c'est dans la constitution.
With growing poverty rates throughout the country and realities of a growing government-led campaign of intense urban militarization in the sprawling urban poor communities of Manila. With movements representing the major poor of the country leading the charge in calling for social change in the Philippines. While there is growing international concern regarding the shocking rates of political killings in the country, with over 850 occurring since 2001. Most local activists suspect the armed forces of the Philippines as having a direct hand in the killings, which are mainly aimed at union activists, peasant leaders, and progressive politicians. In 2006,
the same, the government of Gloria Arroyo, the president, suppressed the workers' right. Many workers, when we demonstrate or we exercise our right, the military always, or policemen always disperse us, and some of our leaders killed by the paramilitary.
Le gouvernement de Gloria Arroyo, la présidente des Philippines, a supprimé le droit de grève. Beaucoup d'ouvriers, quand nous manifestons ou exerçons nos droits, sont dispersés par les militaires ou la police. Certains de nos dirigeants syndicalistes ont été tués par les paramilitaires.
Many workers now are, even though the Gloria Arroyo and capitalists oppress the workers, the coalition of auto workers is still fighting and still organizing the ranks of the workers to fight for our justice.
En dépit de la répression du gouvernement de Gloria Arroyo, la coalition des ouvriers se bat pour la justice.
We are expecting that this